plus anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Canut. Si vous nous rejoignez, il est l'heure d'un petit Canut Info pour ce jeudi 28 avril, jeudi de mobilisation, une fois de plus, contre cette loi travail dont nous ne voulons pas, bien évidemment. Alors, on reviendra très brièvement sur les mobilisations. Nous avons choisi de vous parler de deux luttes en particulier ce jeudi. On parlera des bibliothécaires parisiens et puis de l'opération Rivière Verte des agents de l'environnement. Nous partirons en Mauritanie, on parlera de liberté de conscience, liberté de la presse. Je vous parlerai d'un appel au boycott de la fête de la musique accréditée. Ça se passe à Toulouse. On en parlera longuement. Et puis Laurent va nous parler de quelques politiques. Apparemment, ça ne rend pas intelligent. La politique, c'est ce que tu vas nous raconter à travers quelques exemples, trois il me semble. Je reviendrai sur Dallas, parce que Dallas c'est fini, ça y est,
la FNAC a sorti les brosoufs.
Ouais, et oui, on y reviendra. On parlera de l'hymne de Carrefour pour l'Euro 2016, et puis nous aurons des informations radioactives, et on parlera une fois plus de ces biocarburants, même que ça m'écorche la bouche, rien d'en parler.
Et oui, alors les luttes, les bibliothécaires à Paris.
Alors oui, on aurait pu juste dire qu'aujourd'hui, donc il y avait une mobilisation, excuse-moi.
Oui. Alors, une mobilisation dans toute la France, avec pas mal de monde dans les rues de France. À Lyon, pour reparler un petit peu de la manif ici, entre 10 000 et 15 000 personnes, dirons-nous, en étant réalistes, sans rentrer dans le jeu de la guerre préfecture-syndicat. Mais oui, il y avait en tout cas bien plus que 10 000 personnes, avec des échauffourées, comme disent les médias dominants, voire des casseurs. Non, pas du tout. En fait, la police était très présente, trop près, très près, ce qui excite tout le monde, et c'est fait exprès. Le but, quand on se met si près, c'est qu'on veut que ça dégénère. Hein, d'ailleurs, la dernière grosse manif, ils étaient moins présents et ça avait moins cartonné, comme quoi c'est juste la présence policière qui engendre les violences. Enfin, les réactions un petit peu épidermiques des manifestants et les réactions violentes, elles, par contre, elles sont vraiment violentes, des forces de répression. Donc ça a cartonné à plusieurs moments dans le cortège, avec naturellement des bombes lacrymogènes. Alors dès le début, hein, ça allait très très vite. Et puis après, il y avait différents petits affrontements, entre guillemets. Souvent, c'est très léger. Hein, les CRS s'approchent pour faire démarrer la réaction. Et puis, quelqu'un lance, tout ce qu'il trouve à côté de lui, un paquet de cigarettes, n'importe quoi. Il n'y a pas grand-chose dans les rues, donc il n'y a pas de pavé. Mais voilà, une bouteille de bière, c'est une bouteille de bière. Et puis, après, les CRS tirent dans le tas. Moi, j'ai assisté une petite course-poursuite, enfin, deux, trois courses-poursuites juste à l'arrivée de la manif vers Alagui. Et effectivement, les policiers étaient quand même ultra violents. D'ailleurs, j'étais pas sûr qu'ils poursuivent des manifestants, mais peut-être même des jeunes du quartier là qui les avaient peut-être un petit peu, échauffés.
Donc, houspillés.
Houspillés aussi peut-être. Donc voilà, c'est fait exprès. Hein, donc là, il n'y a pas de revendication politique à avoir de notre côté, du côté des manifestants, parce que c'est finalement des réactions épidermiques naturelles. Par contre, de l'autre côté, c'est une vraie volonté politique de taper sur ceux qui sont dans la rue, et notamment les plus jeunes, hein, puisque à un moment, à partir d'un certain âge, on est un peu moins épidermique, parce qu'on court moins vite, et donc on sait que ça va être plus difficile. Hein, ça s'explique aussi par ça. Alors que, devant, il y avait les jeunes, et ils en ont profité. Alors, on n'a pas le chiffre officiel encore, mais il y a au moins une dizaine d'arrestations. On parle de 14.
Ouais, 14 inculpations, ouais.
Mais bon, on faudra attendre peut-être ce soir ou demain pour avoir plus d'infos. Et puis de comprendre pourquoi, finalement, pourquoi ils sont poursuivis. Alors ça va être souvent des outrages et rébellions, des choses comme ça. Mais voilà, donc l'état de la manifestation. Alors si on dit 15 000, c'est pas mal, sauf que c'est ridicule, bien évidemment, par rapport à la population lyonnaise. Et que dans cette journée assez agréable cet après-midi, moi quand je suis parti de la manif, il y avait énormément de gens qui consommaient, comme d'habitude, dans ce centre-ville qui est un immense centre commercial. Et bah, je pense que sur l'ensemble de la presqu'île, il y avait plus de gens qui consommaient que la masse des manifestants qui sont arrivés dans la presqu'île, ce qui reste triste. Mais ça, bon, c'est pas lié à la manifestation ni à la mobilisation, c'est lié à l'état de la société et du citoyen qui n'a de citoyen que le nom et qui n'est citoyen que quand il prend un bout de papier pourri qu'il va mettre dans une urne non moins pourrie. Donc voilà, ça reste toujours un petit peu triste. Donc il y a eu un peu pareil en France et au global, moi j'ai bien peur que ces petites manifestations n'arrivent pas à faire plier le gouvernement tant qu'il n'y ait pas un grand mouvement qui s'enclenche et ça semble pas vraiment parti pour qu'il y ait un grand mouvement. Il faut rappeler aussi qu'il y avait quand même le lycée Lumière, je crois, qui a été bloqué ce matin, et que voilà, les jeunes, notamment les lycéens et les étudiants, paraissent moins mobilisés que dans certaines luttes hein, du CPE ou avant 86 là sur Devaquet. Mais il faut dire qu'ils ont subi aussi une répression comme on n'en avait jamais vu. Quoique le CPE, ça avait été assez violent aussi. Donc voilà pour moi ce que je voulais dire sur ce que j'ai vu aujourd'hui dans les rues de Lyon.
Oui, alors là, actuellement, il y a une assemblée générale. Alors, je sais pas où elle en est, hein, parce que j'ai pas eu le temps de regarder dans la minute. Une assemblée générale qui se tenait au Théâtre des Célestins, dans le deuxième arrondissement de Lyon. Il y a 200 personnes qui se sont réunies avec la coordination unitaire afin de, bah voilà, de voir effectivement c'est quoi la suite. Alors, bon, j'ai un peu regardé ce que disait le Théâtre des Célestins. Donc, ça a tweeté, comme on dit. Les tweets du théâtre. Hein, rapporte simplement que le théâtre est occupé par une assemblée générale. Rien de méchant, c'est pour l'instant ça a l'air de bien se passer, mais a priori ça a l'air plutôt d'aller dans le bon sens au niveau de l'occupation. Évidemment, il y avait les intermittents du spectacle qui étaient aujourd'hui dans la rue, qui sont mobilisés hein, déjà depuis quelques temps, puisqu'ils sont encore une fois attaqués sur leur régime qui coûterait tellement cher.
Même si hier il y a eu un accord signé qui n'est pas encore validé. Alors,
ouais,
mais
c'est
il
ça.
Y aurait eu quand même une avancée.
Il y a quelques avancées, oui.
Voilà. Alors, j'ai pas suivi du coup le contenu, si parce que bon, on rappelle quand même que le MEDEF et son allié l'État attaquent hein, chaque fois qu'ils peuvent lors des renégociations de cet accord pour écraser, détruire ou rabaisser ou diminuer cet accord à chaque renégociation.
Ouais, alors il y a des choses comme l'ouverture des droits à l'indemnisation à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois. A priori, le dispositif glissant qui est instauré depuis 2003 va être abandonné. Il va y avoir le retour de cette date anniversaire qui était attendue. Mais il y aura d'autres choses hein, comme la neutralisation des baisses d'indemnisation après un congé maternité, parce que c'est pas drôle hein, quand on tombe enceinte et qu'on est intermittent du spectacle. Hein, c'est pas un truc qui est très facile, hein, on va dire. La nation, vous n'êtes pas beaucoup à faire votre bébé. Donc, comme tu le disais, c'est un accord qui maintenant va retourner hein, dans les organisations salariales et patronales pour voir ce qu'il en est. On rappellera quand même que la CFDT, la CFTC et CFE-CGC avaient signé la proposition du MEDEF, hein, dont laquelle la CGT Spectacle ne voulait absolument pas. Une grosse partie des intermittents ne voulait pas non plus. Là, pour le coup, ils représentaient un peu quand même hein, ces syndicats. Et puis, s'ils représentaient une partie de la direction, enfin des cadres, des gens comme ça aussi. La grosse attente là, c'est de savoir comment ça va se poursuivre, puisqu'il faut encore que ça passe la barrière des négociations avec l'UNEDIC, hein, puisque là il y a un accord de branche, il faut repartir sur cette étape interprofessionnelle de négociation. Le risque pour les intermittents, c'est que l'État réintervienne dans cette discussion d'une manière plus violente. Ce gouvernement de gauche comme celui de droite qui précédait hein, avec M. Sarkozy, enfin ce gouvernement, ce chef d'État, M. Hollande, veut abattre lui aussi ce régime et espère bien arriver à faire sortir ce régime d'une solidarité plus collective pour en faire un truc autonome. Comme ça, ça permettrait de bien pointer du doigt à quel point il nous coûte cher, soi-disant. On rappellera que c'est un régime spécifique hein, qui date de 1930. Il est spécifique à des professions qui ont besoin aussi de soutien pour pouvoir travailler. Et puis que on rappellera aussi qu'il y a des patrons qui en ont bien profité dans l'audiovisuel, mais pas que, parce que ça se passe aussi dans le spectacle, qui payent pas les répétitions, qui laissent du coup le chômage prendre en charge ces moments de travail. Ça va être des patrons qui vont profiter pour pas vous embaucher en CDD alors qu'ils le devraient si on regarde la loi, mais vous faire tout ça au cachet. On rappellera aussi que les patrons profitent de ce qu'on appelle les permittents, hein, vous savez, ces gens qui sont sur des fonctions de permanence, c'est-à-dire des fonctions administratives, et qui sont embauchés en intermittence, hein, ça arrive aussi fréquemment. Donc c'est un système qui permet au patronat finalement de moins payer aussi ses travailleurs. Donc c'est un système sur lequel le MEDEF tape, mais parce qu'en fait le MEDEF représente essentiellement de grosses entreprises qui n'ont rien à voir avec les intermittents. La CGPME vaut pas mieux, hein, vous me direz, mais alors, voilà.
Ouais, et puis le patronat des intermittents, c'est même des assos, hein, souvent. Hein,
Oui, tout à fait. Hein, mais après, il ne faut pas oublier que le spectacle en France, c'est aussi de gros théâtres, hein, qui emploient des tas d'intermittents. Et ce ne sont pas que des petites associations avec un ou deux permanents et puis un certain nombre d'intermittents. Donc voilà un petit peu pour ces mobilisations du jour. Effectivement, j'avais envie de vous parler de deux luttes que j'ai repérées. Alors bon, je vais commencer finalement par ces rivières vertes des agents de l'environnement. C'était lundi, peut-être avez-vous vu passer ces images de rivières soit vert fluo, soit vert pomme. Ça dépendait un petit peu de la couleur de la rivière à la base, si elle était marronasse ou pas. Alors c'est les agents de l'intersyndicale des personnels de l'environnement qui ont versé de la fluorescine. C'est une teinture de traçage, hein, c'est absolument inoffensif. Afin d'alerter le ministère de l'environnement, les politiques et le grand public sur la nécessité de protéger l'environnement. Et tout ça, c'est à l'occasion de la 4e conférence environnementale. Alors, c'est pour protéger l'environnement, mais aussi pour protéger leurs emplois, afin que ces agents puissent eux-mêmes protéger l'environnement. Alors, c'est une couleur qui a disparu très, très rapidement. Hein. C'est vraiment un truc de traçage. Alors, c'était une opération qui avait été baptisée Rivière Verte. Elle a été lancée dans 12 départements. C'est comme ça que la Vilaine, Arène, l'Ardèche, on avait le Twancy, c'était en Haute-Savoie, en Indre-et-Loire, en Moselle, tout ça, ça s'est transformé en vert. Il y a eu des fontaines, hein, aussi en vert. Et puis, moi, j'ai surtout remarqué l'Odesse à Quimper, c'est en Finistère, qui est donc devenue une rivière verte. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, l'Odesse a été polluée au beurre, donc ça a changé de couleur après le jaune. Beurre, hein. Oui, je vous jure, il y avait des plaques de beurre qui flottaient à l'Odet, voilà, donc elle est devenue verte, donc ça tombait bien aussi cette intervention. Alors, que dénonce l'intersyndicale? Ben, des effectifs insuffisants, tout simplement. Dans les établissements publics, il y a une réduction importante ces dernières années, ça les empêche de pouvoir aller sur le terrain, ces agents, donc de pouvoir faire correctement des enquêtes, des études et des missions. Et puis, cette intersyndicale dénonce aussi un décalage entre les discours et les actes. C'est-à-dire que aussi critique, hein, ce qui s'est passé sur la COP21, ces agents, ils disent que ben c'est bien beau les discours, mais au final on leur enlève toute possibilité à eux et à elles d'agir. Et puis il y a toujours cette remise en question de la fusion de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Agence des aires marines protégées, des parcs nationaux et de l'Atelier technique des espaces naturels en une agence française pour la biodiversité. Voilà, alors c'est une fusion, c'est toujours bien, hein. Il paraît que ça va être hyper bien pour la biodiversité. Bon, ça c'est l'objectif officiel, hein. L'objectif moins officiel, ça serait de faire des économies, semble-t-il, quand même. Donc voilà, c'était une opération que moi j'avais trouvée intéressante. Et puis l'autre lutte que j'ai relevée, en tout cas, c'est des discussions, hein. Pour l'instant, on en est encore à pour l'instant du discours. Les bibliothécaires, excusez-moi, de la ville de Paris se sont rassemblés la semaine dernière à la Bourse du Travail. Ils et elles se sont rassemblés pour discuter des prochaines ouvertures le dimanche des bibliothèques parisiennes. C'est ce que souhaite mettre en place la mairie de Paris. Alors, il y a déjà des tests enfin bien pérennes a priori, deux bibliothèques parisiennes. Alors il y avait plus de 100 personnes à cette assemblée générale. Les gens ont évoqué ce qui se passait déjà hein, dans leur bibliothèque quand elles sont ouvertes le dimanche. Ça a permis de pointer tout ce qui va pas, puisque là il y a quand même 7 bibliothèques qui sont concernées par les projets de la mairie. Simplement, les bibliothécaires rappellent que bah il y a pas le budget qui va avec. Donc ils sont opposés à une extension des horaires d'ouverture le dimanche. Mais ça veut pas dire qu'à la base ils sont opposés à n'importe quelle extension des horaires d'ouverture. Ils veulent bien aussi participer à la vie de la cité. Et bien s'il faut avoir un peu plus d'horaires, pourquoi pas? Simplement, bah ça serait bien qu'il y ait plus de personnel, qu'il y ait plus de moyens. Donc ils appellent, ils et elles, les bibliothécaires appellent à manifester le 12 mai prochain au siège de la direction des affaires culturelles. Pour faire savoir tout de suite que ça allait pas le faire, hein, qu'ils se mettent bien ça dans le crâne à la mairie de Paris. Et ils visent en particulier Monsieur Bruno Juillard, qui est le premier adjoint de la mairie de Paris chargé de la culture, qui a l'air un peu de trouver que ben c'est une bien bonne idée et que de toute façon il a pas l'air de s'intéresser beaucoup à la vie de ces bibliothécaires parisiens. Donc voilà, c'était, je trouvais que c'était une affaire intéressante parce que ce sont des personnes qui sont réunies très tôt pour partager leur expérience et pour tout de suite se mettre en résistance et pour entrer en lutte avant que ça leur tombe sur le coin de la gueule et que ça soit trop tard.
Alors on va faire un petit mot sur l'international maintenant, tout petit, c'est sur la Mauritanie, on en parle assez peu de la Mauritanie, en général d'ailleurs. C'est un blogueur qui avait été condamné à mort il y a un petit moment, il s'appelle Mohamed Cheikh Ould Mektir, je sais pas si je prononce très bien, je m'en excuse. Donc lui, il a été accusé pour un article publié donc sur un blog et jugé blasphématoire envers ce que les musulmans considèrent comme un prophète, c'est-à-dire Mahomet. Il était condamné à mort. On attendait la confirmation dans la cour d'appel et c'est tombé, ça y est, aujourd'hui. Donc on apprend que la cour d'appel confirme la condamnation à mort prononcée contre ce jeune blogueur. Alors, il a pourtant fait énormément de compromis. Il est même allé plus loin que ça. Pour sauver sa vie, il est allé expliquer qu'en fait, le prophète est mis en cause, pour les musulmans, celui qu'il considère comme le prophète. Mais en filigrane, il dénonçait surtout les inégalités présentes au sein de la société mauritanienne. Lui, il dit que c'est des castes. Alors c'est un petit peu ça, si vous êtes allé en Mauritanie, vous saurez qu'il y a, grosso modo, il n'y a pas que deux ethnies, mais il y a deux groupes ethniques, hein. Ceux qui viennent du nord, les Maures, donc plutôt issus du monde arabe, du Maghreb très exactement d'ailleurs, puisque c'est la partie qui est proche du Maghreb, et au sud sont des Noirs, qui eux, alors là c'est plus varié, puisqu'il y a des Peuls, enfin il y a pas mal de gens un petit peu différents, mais voilà, c'est grosso modo, c'est les Noirs contre les Maghrébins, tout ça ce sont des Mauritaniens en fait, hein. Et bien évidemment, il y a une caste qui dirige l'autre. Hein, les Arabes mauritaniens ont le pouvoir, ont tous les postes à responsabilité et ils exploitent. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de violence, mais il y a eu des grandes périodes de violence. Et finalement, la condamnation, elle attaque ces deux faits, c'est-à-dire le fait qu'il ait parlé de ces inégalités et de la présence encore de ces castes au sein de la société mauritanienne. Et en plus, il remet en cause l'islam. Vraisemblablement, il est athée. Alors là-dessus, il a fait un énorme effort. Il a dit qu'il a tout renié ce qu'il avait mis hein, sur le côté blasphématoire. Parce qu'aujourd'hui, hein, dans les pays où la religion est forte, on n'a pas le droit d'être athée, on n'a pas le droit d'être rationaliste. Donc voilà, il est poursuivi toujours et il risque la condamnation à mort. Mais tout n'est pas fini, puisqu'il y a encore un pourvoi possible. Et tout le monde espère. Alors tout le monde espère. En Mauritanie, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça fait réagir le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, qui a essayé de mettre la pression sur la Mauritanie, avec un régime qui est de toute façon très autoritaire. Pour l'instant, la Mauritanie a pas répondu, mais il y a toujours cet espoir là du dernier passage devant la justice. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU note quand même que lors de la procédure d'appel, pour la première fois, la justice s'est faite dans le calme, que la défense a pu argumenter, alors que les fois d'avant, c'était même pas possible, la défense pouvait même pas s'exprimer. Hein. Donc il y a un progrès et tout le monde espère que ben, voilà, ça sorte de la condamnation à mort pour ce jeune blogueur, parce que voilà, tu ne crois pas en Dieu et tu le dis, tu mérites la mort. Grosso modo, c'est ce qui est dit dans leurs textes religieux et qu'ils appliquent, puisque c'est, je vous rappelle, la République islamique de Mauritanie. Mais il y a eu des périodes qui étaient plus tolérantes quand même en Mauritanie et voilà, ces dernières années, c'est à nouveau un peu plus dur.
Alors, on parlait de toute autre chose. On va partir à Toulouse et on va parler de la fête de la musique. Je vous rappelle que la fête de la musique, c'est le
21 juin.
C'est bien. Et ça, on est d'accord là-dessus. Alors, je lis, je cite, « La ville de Toulouse veut une ville culturellement morte, alors donnons leur satisfaction. » Excusez-moi, je bafouille. « Prenons tous des places pour cet événement auquel nous ne nous rendrons pas. En signe de protestation aussi, d'une manière plus générale avec la gestion de la culture par la ville de Toulouse, nous vous donnons rendez-vous le 3 mai pour réserver vos places pour cet événement. Invitez tous vos amis qui veulent protester, ça peut aller vite. » De quoi je parle actuellement?
Alors, c'est une fête de la musique, il faut prendre des places. Déjà, c'est bizarre.
C'est ça. Ce que je viens de vous lire, c'est l'introduction du texte, du communiqué du collectif Culture à Toulouse, Vite revient. Le collectif a créé une page Facebook. Pourquoi? Puisque la mairie a décidé d'imposer des accréditations aux personnes qui souhaitent assister au concert qui sera organisé le 21 juin. Concert qui va être diffusé sur France 2 et TV5 Monde, qui va être animé par Garou. Imaginez donc.
Oula, il y a de la non-qualité là.
Voilà. Un concert qui va se tenir place du Capitole, 16 000 spectateurs sont attendus avec des accréditations.
Ah ouais, du coup c'est génial, si jamais il y a une dizaine de milliers de militants qui sont de défense de la culture, qui prennent les places et qui y vont pas, ça va être désert.
C'est l'idée, je sais pas
génial.
si ça va marcher, mais c'est l'idée. Alors évidemment, c'est une émission de télévision tout ça, c'est pas une fête de la musique. La fête de la musique, comme le rappelle le premier communiqué du collectif, on fait ce qu'on veut, on va rencontrer des artistes locaux, c'est le but de cette fête de la musique. On n'est pas parqué dans un espace à destination de la télévision. Alors, l'événement serait donc gratuit. Il faut donc avoir un pass nominatif pour assister à ce grand événement. Il va donc y avoir une plateforme de billetterie mise en place à partir du 3 mai, comme l'explique le collectif. On pourra avoir que deux passes maximum par personne. Enfin bon, il y a peut-être que quelques exceptions si après quand même on a une grande famille. Les passes ne pourront pas être échangées, ne pourront pas être cédées. Hein, il n'y aura pas de marché noir. alors, le collectif ne demande pas au maire de Toulouse d'annuler ce concert Place des Capitales, mais de retirer le dispositif d'accréditation. Il faut être bien clair là-dessus. Alors, monsieur Moudenc, le maire de Toulouse, évoque de son côté des raisons de sécurité et d'état d'urgence. Un bon dos l'état d'urgence, moi je vois le dire. Alors sur les réseaux sociaux, je suis allée voir ce que les gens racontaient donc au collectif. Alors des gens qui disent oui mais quand même la sécurité vis-à-vis des attentats c'est vraiment très 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 important. Alors
dans ces cas-là il faut qu'ils annulent tout à fait de la musique parce qu'il va y avoir des gens partout.
Ouais, puis alors le collectif de répondre donc pour chacune des manifestations gratuites la mairie fera délivrer des passes genre pour la fan zone. Les petits moqueurs, ils sont rigolos dans ce collectif, moi je les aime bien. Alors il faut savoir qu'à côté de ça, ça va vous rappeler des choses. La mairie et la préfecture ont mis en place tout un système. Il va y avoir la suppression des terrasses dès 15h, le bouclage total de la place, la fermeture des commerces dès 18h. Hein, ça vous fait penser un peu à la place Bellecour et sa fan zone quand même. Hein. Alors, en réaction, le maire de Toulouse a décidé de créer sa page Facebook en soutien à cette magnifique soirée. Et oui, voilà, il réagit, le monsieur, ça s'appelle Oui, oui, le Oui est en majuscule, on n'aurait pas bien compris, Oui à la fête de la musique, place du Capitole à Toulouse, point d'exclamation, ne laissons pas transformer cette fête en polémique politique stérile, point d'exclamation, n'instrumentalisons pas l'état d'urgence, point d'exclamation. Ça c'est le début, je me dis, bon, pour attirer le chaland, c'est quand même un peu moyen. Alors il explique, lui, son argument, c'est quand même, c'est présenté par Garou, il va y avoir une trentaine d'artistes d'envergure d'envergure nationale et internationale.
Ah, du coup, c'est pas fête de la musique, hein, c'est de l'arnaque. Hein.
Ah voilà.
C'est pas le but de la fête de la musique.
Ah ben non, parce que d'ailleurs, la phrase d'après, c'est ce concert sera retransmis dans plus de 200 pays auprès de plusieurs millions de téléspectateurs. Ça leur fait une belle jambe, hein, aux Toulousains et aux Toulousaines. Alors. Là-dessus, le maire avait invité le collectif à venir discuter à la mairie de cette soirée. Le collectif, a priori, n'a pas répondu. Là-dessus, le maire s'est énervé, a dénoncé l'opacité du débat. C'est très drôle parce que, bon, de sa part, a priori, on n'est pas des Toulousains et des Toulousaines dans cette émission, mais il ferait mieux de se regarder le monsieur. Suite à quoi, le collectif, paf, a publié un nouveau communiqué dans lequel ils expliquent pourquoi ils refusent de rencontrer monsieur le maire. L'une des raisons, c'est de dire, bah, jusqu'à présent, monsieur le maire a répondu assez fermement à nos demandes. Il campe sur ses positions, on voit pas bien pourquoi on va aller à la mairie. Et puis justement, on n'a pas envie d'aller à la mairie, on lui propose de venir plutôt s'y discuter, s'il ose, dans l'espace public. A priori, il n'a pas trop envie d'oser. Donc, il demande toujours, hein, le collectif, la suppression de l'accréditation obligatoire. Le collectif appelle aussi à l'élaboration d'un plateau d'artistes dont seront issus des talents locaux et émergents. Et puis, le collectif appelle à plus de transparence au niveau du coût de l'événement, parce que ça aussi, a priori, c'est pas très très clair. Donc le collectif dit, bah, nous, on va continuer à boycotter cet événement tant que le maire ne changera pas d'avis. L'argument de la sécurité, ils expliquent qu'il ça peut s'entendre, mais qu'il y a plein d'autres méthodes, hein, qui peuvent être mises en place. D'ailleurs, il y a d'autres villes, hein, qui s'arrangent et qui ne font pas payer pour autant une entrée et qui malheureusement mettent en place tout un tas de systèmes avec des fouilles. Et puis le collectif, c'est les petits marrons, explique excusez-moi, d'autant qu'avec les nombreuses caméras de sécurité plébiscitées installées par la mairie, nous nous sentons en pleine confiance. C'est les petits rigolos dans ce collectif. Et puis le collectif a quand même un nom, hein, collectif culture à Toulouse vite revient, puisque le collectif s'attaque d'une manière générale à la politique culturelle menée par le maire de Toulouse. Le collectif explique, à l'heure où l'équipe municipale nous a démontré à de maintes reprises que la culture était pour eux une variable d'ajustement budgétaire, nous nous interrogeons sur la pertinence de l'accueil d'un tel événement. Quel coût pour la ville d'accueillir une trentaine d'artistes d'envergure nationale et internationale quand on sait que la scène locale toulousaine regorge de pépites, sûrement bien moins gourmande en finances. Parce que voilà, le maire en ce moment à Toulouse n'arrête pas de couper dans les budgets culture et spectacle. Il y a un certain nombre de festivals qui perdent de l'argent, qui perdent des journées, il y a des lieux qui perdent des subventions. Voilà, donc c'est tout un état culturel, hein, qui est attaqué aujourd'hui par ce maire de droite, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais en ce moment ça change pas grand chose. Voilà, vous pouvez vous aussi, où vous habitiez, je vous y encourage, allez vous nommer participants et participantes pour aller boycotter le 3 mai cette soirée, puisque même si vous n'y allez pas, peut-être que si vous êtes tellement nombreux et nombreuses, le maire finira peut-être par plier.
Alors, je me suis posé la question avec différentes infos. Est-ce que la politique ne rend, pourquoi la politique ne rend pas intelligent? Puisque j'ai eu trois petites infos que je vais partager avec vous et qui démontrent qu'effectivement, ça n'a pas l'air bon. Pourtant, les trois personnes que je vais citer sont des professionnels de la politique. Hein, ce qui est, bon, ça dévoie bien évidemment l'idée qu'on pouvait se faire. Il y a à l'époque des Lumières où le but c'est que les citoyens gèrent les pays à travers des élections et tout ce qu'on n'importe quel système, mais pas que ce soit des professionnels. Mais bon, on en est là aujourd'hui. On va commencer avec Marion Maréchal Le Pen, qui a priori ne nourrit pas une passion débordante pour la République et surtout pour les valeurs de la République. Donc comme elle l'a rappelé, c'était hier matin, alors je l'ai pas vu mais j'ai lu l'info après parce que je regarde pas les télé, le matin encore moins, elle dit préférer à la République les 16 siècles de chrétienté qui l'ont précédé. Waouh. Bon, et elle a continué en disant qu'elle était un peu elle se sentait appartenir à une génération un peu saoulée par les valeurs de la République. Bon, c'est pas bien, on a bien, j'aime bien su ce qu'étaient les valeurs de la République à travers ce qu'elle ressentait, elle. On a une idée globale des valeurs de la République. Mais voilà. Alors, c'est pas la première fois qu'elle fait cette déclaration. En ce moment, elle bat des records. Elle l'avait fait à la revue Charles. Elle l'avait fait à un colloque de l'Action française. Vous savez, les fachos. Alors, elle représentait le camp républicain quand même. Ça fait peur. Et elle avait dit, mais attendez, moi, je suis quand même républicaine. Bon, et puis je me suis, alors du coup, je me suis posé une question. Je me dis, attends, 16 siècles de chrétienté avant la République. Alors, on va dire, quel est le premier système non chrétien en France moderne qui arrive? C'est la Révolution française, en 1789. On va dire 1800, allez, pour faire résumer. On enlève 16 siècles, donc 1600 ans. Et il nous reste, on est en 200 après Jésus-Christ. Et là, je me suis dit, mais ils se foutent de notre gueule. 200 après Jésus-Christ, la France n'était pas chrétienne. Le premier roi dit chrétien, c'est Clovis. J'ai revisé mes cours d'histoire, là, je suis allé voir et tout. Alors, Clovis, il aurait été baptisé aux alentours de 499. Donc 500 ans, c'est-à-dire 300 ans plus tard. Alors, il y avait une présence chrétienne, mais évidemment, à Lyon, on a encore des traces, hein, puisque ceux qui étaient contre l'arrivée de cette religion dominante et totalitaire, hein, on le rappelle, hein, c'est très hégémonique avec une structure pyramidale qui impose beaucoup de choses. Ils ont un peu brûlé Sainte-Blandine, tout ça là. Enfin, non, donné au Lyon plutôt d'ailleurs, ils l'ont pas brûlé. Enfin voilà, donc, j'ai l'impression qu'elle refait l'histoire, ou qu'elle se fout de notre gueule, ou qu'elle y connaît pas tant que chose que ça, et qu'elle est dans l'idéologie bêtement chrétienne et croyante, hein, parce qu'elle est ultra croyante, cette Marion Maréchal Le Pen. Alors, premier exemple de. Ça n'a pas l'air de rendre intelligent, en tout cas le critère d'intelligence n'a pas l'air d'être un critère de sélection. On va parler, on va changer de bord politique et on va aller voir Emmanuel Cos. Ouh là là, alors Emmanuel Cos, c'est un peu la quintessence de la femme politique moderne. C'est pas un propos ni sexiste ni antisexiste, hein, c'est une constatation. Hein. Ça n'a pas de sens, je veux dire, sur l'orientation sexuelle ni sur le sexe de Madame Cos, mais en tout cas, c'est la quintessence de la traîtrise idéologique aussi, puisque elle a été interviewée, donc elle est, je vous rappelle, ministre du logement, et qu'elle est censée être écolo, et censée avoir été un moment à Europe Écologie Les Verts, donc bon, puisqu'elle a quitté la direction en février dernier, je sais pas bien où elle est maintenant, du coup, elle est encore dedans ou pas, c'est flou. En tout cas, on lui pose la question à cet élu, Emmanuel Cos, à cette ministre soi-disant écologiste, sur l'hypothèse d'une candidature écologiste en 2017 pour l'élection présidentielle. Alors elle dit, bah oui, ça me paraît évident, je dis ces mots, mais que les idées de l'écologie soient représentées en 2017. Bon, ça, jusque-là, elle est dans son discours traditionnel. Et quand le journaliste lui demande, bah alors c'est qui va le faire? Est-ce que François Hollande peut le faire? Vous imaginez, François Hollande, le mec a dit qu'il fermait des centrales nucléaires et qu'il n'en a fermé aucune. Le mec qui soutient la FNSEA, donc l'agriculture productiviste. Enfin bon, pour en citer des tonnes, des mesures anti-écologiques. Le mec qui a mis des cars pour faire du transport à la place des trains, quoi. Des trains électriques qui polluent pas beaucoup. Et il a mis des cars pourris, quoi, les cars Macron. Enfin voilà, et elle dit, bah oui. Alors là, on se dit, bon, en fait, il y a une raison. On se dit, soit elle est complètement débile, ce qui semble pas être le cas, soit elle réfléchit pas, c'est possible, soit elle est en train de faire allégeance. Et la traîtrise politique arrive sur l'allégeance, donc voilà, elle fait allégeance à François Hollande, le nouveau dieu de l'écologie. Bah, nous, on n'a jamais vu ni pris pour un dieu, puisque nous, on n'a jamais vu de dieu, et en plus, on n'a jamais vu d'écologie non plus chez Hollande. De toute façon, là, ça fait deux trucs. On restera rationaliste jusqu'au bout. Hollande n'est pas écolo, et tout ça. Bon, et pour terminer dans les informations sur les professionnels de la politique qui ont l'air complètement débiles, et là, je peux le dire, je vais citer Ken Livingstone. Donc Ken Livingstone, c'est l'ancien maire de Londres. Ken le Rouge, hein, je crois que c'était son surnom. Et donc il a dit, je cite, « Quand Hitler a gagné les élections en 1932, sa politique était que les Juifs devraient être déportés vers Israël. Il soutenait donc le sionisme avant de devenir fou et de tuer 6 millions de Juifs. » Grosso modo, alors il a continué, il laisse entendre que Hitler était sioniste. C'était un peu chaud tendu à dire comme ça, même si historiquement, il a sûrement et vraisemblablement voulu se débarrasser des Juifs. Peut-être pas de les tuer au début, mais de les éjecter. Mais enfin, de là à dire que Hitler était quelque part sioniste, bon, ça a beaucoup énervé Israël, bien évidemment, mais ça a énervé ses amis du parti du Labour. De Labour, qui l'ont suspendu. Et il faut dire qu'il était. Alors, quand il a dit ça, il était en train de défendre Naz Shah, députée qui était elle aussi suspendue de son parti pour des propos qualifiés, ou de pas loin, en tout cas, d'être antisémite. Il y a un souci là chez les hommes et les femmes, puisque Naz c'est une femme, je crois bien. J'en suis sûr. Sur ce sujet-là en Angleterre, donc voilà, il n'a pas fait preuve d'une très grande intelligence. Et c'est pas la chose qu'on dit comme ça, en tout cas. Même si on veut expliquer que Hitler a peut-être changé de politique petit à petit. Et quoi qu'il y a quand même des scientifiques qui pensent que dès le départ, il a quand même une idée un peu extrême de ce qu'il voulait faire des Juifs. Dire ça comme ça, ça paraît quand même un peu bête. Et pourtant, cet homme, Ken Livingstone, a dirigé Londres pendant un certain nombre d'années. Allez comprendre.
C'est quoi ? Je vais même aller dans ton sens sur les politiques, puisque moi, cette semaine, j'en ai noté trois. On a la petite phrase de M. Sarkozy sur Nuit Debout. Des gens qui n'ont rien dans le cerveau, a-t-il expliqué, avec des arguments comme ça, il va gagner la présidentielle, hein, déjà direct. J'ai noté aussi les déclarations d'un autre candidat à la primaire à droite, M. Bruno Le Maire. Alors, il a expliqué mercredi qu'il était pour la suppression du statut de la fonction publique territoriale. Hop là, on enlève tout ça. Et en fait, il y a juste les gens qui sont qui ont besoin d'indépendance, explique-t-il. Hein, c'est la justice et la police globalement. Et il a expliqué que le département doit avoir accès aux comptes bancaires des bénéficiaires du RSA pour s'assurer que les bénéficiaires du RSA touchent bien le montant dont les bénéficiaires ont besoin. Il a expliqué : vous voulez toucher votre allocation du RSA ? Il faut que vous donniez votre relevé bancaire. Si vous ne voulez pas donner votre relevé bancaire, libre à vous, mais vous ne toucherez pas le RSA. Candidat.
Ah putain, ça fait peur.
Numéro 2. Et puis un qui n'est pas candidat à la primaire à droite, mais on se demande bien pourquoi, c'est notre empereur local, monsieur Gérard Collomb, qui a fait des belles déclarations au conseil municipal en parlant du premier arrondissement.
C'est génial, on vit dans le Bronx.
Je ne laisserai pas cet arrondissement se transformer en un espace underground qui deviendrait totalement en marge des lois de notre pays. Et évidemment qu'on peut attirer les gens, à condition qu'ils n'aient pas l'impression d'entrer dans le Bronx d'il y a 30 ans.
C'est voilà. Énorme.
Alors, écoute,
peut-être que vous avez jamais vu le Bronx il y a 30 ans. Les films, c'est un peu caricatural sur le Bronx. Mais c'était un peu rock'n'roll, le Bronx. Hein. Au coin de rue, il y avait un peu des feux, il y avait un peu... C'était un peu difficile à traverser quand on n'était pas localement habitant du Bronx. Eh ben la Croix-Rousse, les pentes de la Croix-Rousse, je vous laisse faire, essayez de traverser, vous verrez. Bon, nous on le fait tous les jours et a priori nous est pour l'instant rien arrivé, on touche du bois, on ne sait pas. Mais vraisemblablement, Gérard Collomb n'a pas mis les pieds sur les pentes de la Croix-Rousse depuis 30 ans. Moi, la dernière fois où je trouvais que le quartier était un peu tendu, c'était quand j'avais 15-16 ans. Donc,
voilà. Je le trouve tendu quand il y a les flics qui débarquent.
Il parle l'inverse de ça.
Alors, il paraît que, d'ailleurs, je vous le glisse là tout de suite, hein, comme ça sera fait, il paraît qu'on va se taper trois nouvelles caméras dans le quartier, une montée de la Grande Côte, une sur la place du Griffon et une deuxième sur la place Saint-Tenay. Mais qui va bouger celle-là. Elle sera plus pratique pour nous regarder et nous espionner.
Bon bref, on vit dans un quartier dangereux et Radio Canu est au cœur de ce quartier dangereux. Hein, et ça va hein, quand même. Vous inquiétez pas pour Radio Canu. Si un jour on a des problèmes, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on l'ait de la part des fachos qui viennent d'autres quartiers que des gens qui se prennent pour les habitants du Bronx et qui habiteraient le premier arrondissement de Lyon.
Enfin, ils nous font bien marrer. Il est content, Alexandre. Ouh, qu'il est content, Alexandre.
C'est qui, Alexandre ?
Monsieur Bompard.
Alexandre Bompard. Le patron de la FNAC.
Il a réussi ce mariage avec Darty.
Non mais attends, moi j'ai trouvé qu'il avait un poil triché en rachetant des actions à d'autres par derrière.
Et ouais, mais enfin par derrière, non. Conforama a fait ça aussi. L'idée, pour expliquer un petit peu les choses, c'est qu'effectivement la FNAC a annoncé mardi avoir obtenu le soutien d'une majorité des actionnaires de Darty. Il faut savoir que Conforama a confirmé que le groupe n'allait pas surenchérir. Ça y est, c'est la fin. La FNAC de son côté avait expliqué que cette troisième surenchère serait sa dernière offre. Donc il s'est passé deux choses. À la fois, la FNAC a encore une fois enchéri pour acheter Darty et en même temps, la FNAC essayait de récupérer des actions pour mettre la main sur Darty. Alors, Darty avait assuré ses arrières en obtenant des engagements irrévocables hein, de deux principaux actionnaires de Darty, c'est les fonds NACT, Vinc et DNCA, ce qui déjà amenait plus de 20% du capital, mais c'était une promesse qui ne pouvait se faire que si la FNAC arrivait à mettre la main définitivement sur Darty en prenant 50% du capital. Donc il fallait trouver ces 30% restants. Alors il paraît, d'après la petite histoire, que du côté de la FNAC, on a téléphoné tout le week-end à des actionnaires de Darty pour les amener à bien vouloir céder leur petit capital. Ce qui sait que lundi, la FNAC avait annoncé détenir déjà 40% du capital, et puis mardi, les 10% restants ont fini de bloquer toute cette affaire. Alors, pour autant, Alexandre, il peut se réjouir, mais je lui souhaite de pas trop se mettre du champagne dans la tronche, parce que va falloir vite qu'il reprenne l'affaire en main. Premièrement, parce que l'intersyndicale de Darty, et alors quand je dis l'intersyndicale, c'est tous les syndicats, du plus gros au tout petit, a exprimé une préférence. À la base, c'était vendredi dernier, pour le projet de Conforama. Donc autant dire que Alexandre, il n'est pas accueilli les bras grands ouverts, puisque le communiqué explique: l'ensemble du personnel Darty, toutes catégories confondues, ainsi que l'ensemble des organisations syndicales qui les représentent, rejettent clairement le rapprochement souhaité par la FNAC. Ça sent pas bon. Alors les syndicats et les travailleurs de Darty s'inquiète aussi de la situation de surendettement. La FNAC va bien payer, pas juste au niveau du rachat, mais va bien devoir accompagner quand même cette prise en main de Darty. Le pognon va bien falloir le sortir de quelque part. Les syndicats s'inquiètent donc de plans sociaux, à venir. Et puis il y a ce petit problème de concurrence. Il va falloir que cette acquisition soit validée par l'autorité de la concurrence, qui va devoir examiner s'il y a des conséquences au niveau du rapprochement entre des magasins Fnac et Darty. Il y a des villes comme à Lyon ou à Paris où les magasins sont assez proches les uns des autres.
Bah, je crois que c'est dans le centre commercial à La Perdue, sur un côté.
Donc ça va poser quelques soucis. Donc l'autorité risque de demander à la FNAC de se séparer d'un des magasins. Donc les travailleurs et les travailleuses commencent un petit peu à s'inquiéter, en se demandant qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir devenir dans ces centres-villes lyonnais ou parisiens. Voilà. Alexandre, tu peux te réjouir, mais pas trop quand même. Il va falloir retomber sur terre, parce que tu n'es pas bien accueilli de partout. Voilà, donc il va falloir arrêter de danser. Et puis on va parler de danser, on va parler de chansons. Alors vous avez peut-être entendu, il paraît qu'il y a une chanson pour l'Euro 2016. Une chanson du groupe lillois Skip the Use, et qui reprend une chanson de Kiss. As-tu entendu laquelle il s'était?
I was made for loving you, baby.
Ouais. Et ça a été
l'hymne disco de Kiss.
Voilà. Et ça a été rebaptisé I was made for loving you, my team.
Attends, faut que j'écoute ça doit péter un peu, quoi.
Alors, je sais pas, j'ai vu, je sais pas quoi te dire. Je sais pas, je crois que les images m'ont un petit peu choqué. Alors, tous les médias ont évoqué ce grand moment. Alors, on a pu lire que c'était l'hymne des Bleus, la chanson officielle des Bleus, l'hymne officiel des Bleus. Je peux vous dire que depuis, beaucoup ont modifié leur titre. Europe 1 avait même écrit sur son site internet l'hymne pour l'Euro. Paris Match, découvrez l'hymne des Bleus pour l'Euro. La chanson officielle des Bleus dévoilée, ça c'était Figaro Sport sur le site internet toujours, et ainsi de suite, tout le monde s'y est mis, tout le monde, simplement ce n'est pas la chanson officielle de l'équipe de France, ce n'est pas la chanson officielle des supporters de l'équipe de France pour l'Euro 2007, ce n'est pas la chanson officielle de l'Euro 2016, ce n'est pas la chanson officielle de la Fédération française de football, c'est une opération marketing de l'un des sponsors de l'équipe de France de football, c'est l'hymne de Carrefour pour les Bleus et les supporters.
Ah bah si.
Voilà, je vous ai fait ça un peu vite, mais je voulais que tout de suite ça se voit bien clair. Non, ce n'est pas une chanson officielle. C'est une chanson marketing, c'est une chanson d'un sponsor de Carrefour qui a des supermarchés, je vous le rappelle.
En même temps, cette chanson, c'est une chanson marketing de Kiss, déjà.
Oui, bah non, mais enfin, je veux dire. Voilà. Alors, la Fédération française de football explique que la fédération accompagne évidemment, parce que Carrefour est un de ses partenaires, mais elle n'est pas proactive sur le sujet. Oui, il y a des mots de ce type dans le communiqué. Il n'y a pas d'hymne officiel en tant que tel. Bon. Du côté du groupe, on explique que c'est Carrefour qui est venu les chercher. Et puis que, ils se sont dit que c'était sympa.
Ils se sont fait un délire, a priori, quand même.
Ouais, enfin, ils se sont fait un cachet aussi, on peut le dire aussi.
Oui, c'est vrai, sûrement.
Non, mais je veux dire, il y a un moment, je sais pas, ils avaient pas l'air. Si, il y en a une partie qui avait l'air un peu d'aimer le foot. Ils ont des copains foot, donc oui, ils se sont plus ou moins amusés, bien sûr, bien sûr. Alors, mais bon, c'est la réaction de ces médias qui est intéressante, hein, puisque tout le monde a vrillé sur le sujet, sauf le Parisien qui avait eu l'exclusivité sur son site internet pour diffuser ce clip musical. Belle reprise. Et puis même notre ministre des Sports, en expliquant « Grande fierté de voir les nordistes de Skip the Use choisis pour supporter nos bleus pendant l'Euro 2016 ». Ils n'en peuvent plus tous, autant qu'ils sont.
Ils auraient quand même pu composer un morceau, mais bon. Après...
Alors bon, on rappellera que la chanson officielle de l'UEFA Euro 2016, c'est David Guetta qui a hérité de la chose. Je ne sais pas non plus ce qu'il faut en penser.
Moi, je préfère le groupe Bisous hein, plutôt que David Guetta.
Oui. J'ai pas d'avis.
C'est plus paillette.
Non, mais moi, j'ai pas d'avis artistique sur la question, très sincèrement, je vais vous le dire. Voilà, on n'a pas fini quand même d'en bouffer de cette Euro 2016. Et alors, vous aurez bien compris, évidemment, le message, c'est supportons les bleus et allons au supermarché.
Eh ben oui, c'était le but.
C'était un peu l'idée, quoi.
C'est à moi.
Et oui, un petit peu de radioactivité.
Alors, j'ai plein d'infos nucléaires et radioactives, forcément, puisque ça va avec. On va commencer par la Belgique. Ah, c'est un beau pays, la Belgique. Sympathique. Il se pose des questions sur ce qu'il faudra faire quand il y aura un accident nucléaire. Puisque maintenant, on n'est plus à dire si un accident nucléaire, mais quand il y aura un accident nucléaire. Et contrairement à la France qui ferme les yeux, ferme la bouche, ferme les médias et ne dit rien, la Belgique agit. Et donc, ils ont décidé de distribuer des pastilles d'iode à toutes les personnes qui habitent à moins de 100 km d'une centrale nucléaire. Vu la taille de la Belgique et le nombre de centrales, ben ça fait que toute la population belge va avoir une pastille d'iode. Alors, pour rappel, la pastille d'iode sert à surcharger, saturer même la thyroïde de diode, diode, hein, avec un apostrophe là. Et ensuite, une fois qu'elle est surchargée d'iode, l'iode radioactif, qui est un des composants émis par un accident nucléaire, ne se fixe pas sur le corps humain. Et on a donc peu de cancers de la thyroïde. Cancer de la thyroïde, qui doit être un des rares cancers qu'on guérit d'ailleurs. Bon. Mais voilà. Alors, ça ne solutionne rien sur un accident nucléaire, ça aide à se protéger que de ça, que du seul cancer qu'on guérit. Tous les autres, c'est pas, ça ne protège pas. Mais ça nous rappelle un truc, c'est que 100 km autour d'une centrale nucléaire, ça veut dire que s'il y a un accident, ils vont vouloir évacuer sûrement à plus de 30 km. Et ben, dans les studios de Radio Canu, on devrait avoir des pastilles d'iode, puisque nous sommes à 30 km, vol d'oiseau, d'une centrale nucléaire qui s'appelle le Bugey. Et alors là, on se marrait si la France avait le courage d'aller jusqu'au bout de la prévention, parce que ça compliquerait beaucoup la donne, et notamment, il faut savoir qu'il n'y a aucun système de prévu fiable pour évacuer la population de Lyon quand il y aura, s'il y a un accident nucléaire à la centrale du Bugey. Et on sait ce qui va se passer, si jamais ça arrive, ce sera la panique, ce sera comme aux États-Unis quand il y a eu l'accident nucléaire de Three Mile Island. Bon ben voilà, en quelques minutes, les routes sont bloquées. Et plus personne ne peut bouger. Voilà, c'est triste. Finalement, la Belgique montre la voie et la France ferme les yeux et les oreilles pour ne pas se rendre compte de ce que font les autres, qui est mieux que ce qu'on fait chez nous. Alors toujours dans le nucléaire, et cette fois on bascule de l'autre côté de la frontière, on vient en France et on parle de Fessenheim. Eh oui. Donc vous savez qu'il y a le projet de fermer Fessenheim qui serait peut-être fait au mois de décembre, mais on n'en est même pas sûr. Eh bien, EDF négocie actuellement avec l'État français une indemnisation. Et là, on est tous sur le cul. On se dit, non mais attends, c'est quoi le truc? La centrale, elle est à la limite de péter, elle est super vieille, elle est au bout du rouleau, et ils demandent une indemnisation pour la fermeture. Comme les Allemands, là, les entreprises qui avaient des centrales nucléaires, ont demandé des indemnisations à l'État. Il y en a déjà eu en Allemagne. Mais il faut dire qu'ils avaient des centrales qui vont fermer et qui étaient moins vieilles. Et là, le PDG d'EDF, qui n'a peur de rien, qui n'est pas, après une incohérence, voire un mensonge près, il s'appelle Jean-Bernard Lévy, il dit, bah, c'est normal qu'il y ait un préjudice donné, enfin, une somme donnée en... Parce que EDF subit un gros préjudice, puisque la centrale nucléaire, elle fonctionne bien. Et là, quand on regarde la liste des accidents de Fessenheim, on se dit, il se fout de notre gueule. Ou alors, il n'a jamais regardé, ou alors lui aussi ferme les yeux. Oui, il ment volontairement. Donc voilà, Bien évidemment, ça nous rappelle aussi un truc, c'est que EDF, qui est majoritairement détenu par le contribuable français, donc par l'État français, appartient en partie aussi à d'autres, notamment l'allemand, un groupe allemand, un groupe suisse, enfin voilà, il y a d'autres participants à EDF. Bon, bah, c'est pas rassurant, parce que ça veut dire que si jamais on demande de fermer d'autres centrales, il va falloir payer en plus. C'est vraiment de l'escroquerie. Les mecs, ils ont construit des choses qui sont pas fiables, qui peuvent péter à tout moment, et on leur demande de fermer parce que c'est pas fiable et que c'est risqué, et ils font payer. Ça s'appelle de l'arnaque. A priori, ça c'est assez généralisé hein, dans le monde du patronat. Donc voilà, ça fait peur. Et toujours dans le nucléaire, j'en ai 5 d'infos, vous allez voir. Royal, donc Ségolène de son prénom. Vous savez, c'est la ministre qui est qualifiée de ministre de l'écologie, mais on sait que c'est la ministre de l'anti-écologie et du développement, mais pas durable, le développement. Elle a dénoncé lundi dernier, je cite, les prises d'opposition idéologiques et obsessionnelles des antinucléaires. Alors pour elle, l'obsessionnel, c'est quand on n'est pas une girouette politique. C'est-à-dire qu'on pense que le nucléaire, c'est une mauvaise chose, c'est dangereux. Ben, si le lendemain, on continue de dire que le nucléaire, ben, c'est dangereux et il faudra en sortir, eh ben, ça devient obsessionnel pour elle, quand on a une idée constatée sur des faits en plus relativement rationnels. Bon, elles ne sont pas très rationalistes, cette Ségolène Royal. Donc voilà, donc elle a expliqué qu'il fallait arrêter. Alors, je vais citer d'autres phrases. Elle dit, la transition énergétique, c'est la totalité des énergies, donc pas seulement le nucléaire, et il faut donc faire, elle dit, des économies d'énergie. Elle fait référence à la loi de transition énergétique, qui n'est tout sauf une transition, qui est une mini-transition, on va appeler ça, énergétique, qui a été votée l'été dernier, si je ne me trompe point. Donc elle explique, et là on se marre, elle dit, et ensuite, c'est là où elle se fout de votre gueule et de la mienne, et de la nôtre. Et ensuite, avec cette montée en puissance donc du renouvelable, qui doit monter jusqu'à 40% de la production d'électricité, donc ça doit monter tout seul. Donc elle veut faire monter 40% de l'électricité en plus. Elle va en faire quoi, l'électricité en trop qu'on fabrique? Je sais pas, elle explique pas. Donc je recite la phrase. Et ensuite, avec cette montée en puissance qui doit monter, elle met deux fois monter, qui doit monter jusqu'à 40% de la production d'électricité, je baisserai de 75 à 50% la part du nucléaire. Je baisserai. Non mais les élections présidentielles, c'est en 2017, il y a très peu de chances que la gauche gagne. Elle, ça va prendre 20 ans ou 30 ans à la vitesse où ils investissent dans le renouvelable. Moi j'espère que dans 20 ou 30 ans, elle ne sera plus là, hein, qu'on aura des vrais écolos. Hein. Je ne suis pas sûr non plus, mais bon, on peut espérer, on peut rêver. Un monde utopique, un peu avec des gens respectueux de l'environnement. Enfin voilà, c'était quand même... Depuis le début, elle arrive à sortir des énormités et à ce que personne réagisse. Parce que quand elle sort une énormité comme ça, le journaliste qu'elle a en face d'elle ne dit rien. Ne lui dit pas, mais vous allez rien faire changer, madame, puisque vous serez plus au gouvernement. Non. Donc voilà, c'est un mensonge de plus de madame Ségolène Royal. Ou peut-être qu'elle pense qu'elle a un siège inamovible, mais peut-être la reine. La reine de l'écologie et qu'elle participe pas à la République. On a basculé en monarchie constitutionnelle et que c'est la reine. J'arrive pas à imaginer ce qu'elle a pu penser. Alors, toujours avec EDF, tiens. Donc, on apprend les sommes qui vont être mises par l'État, c'est-à-dire vous et moi et nos impôts. Donc, on savait déjà hein, que l'État allait mettre 5 milliards d'euros dans Areva, hein, qu'EDF a réintégré. Et ils ont rajouté 3 milliards d'euros, l'État. Donc ça fera un petit montant sympa. Alors il faut dire que l'État a prévu, enfin EDF a prévu une recapitalisation de 4 milliards d'euros. Donc ils cherchent 4 milliards d'euros à faire entrer dans la boîte. Et l'État en met 3 milliards. Donc il y a 1 milliard qui sera pris ailleurs. Alors ces 3 milliards, le milliard qui manque, ils vont les prendre en vendant peut-être des choses. En tout cas, l'État, pour financer ces 3 milliards, a dit qu'ils allaient privatiser encore plus d'entreprises françaises. Alors, on sait qu'il y a l'aéroport de Nice, l'aéroport de Lyon dans les valises. C'est porté, bien sûr, par Emmanuel Macron, ce très beau ministre de droite de l'économie. Il comptait aussi ouvrir le capital de RTE un peu plus, le réseau de transport d'électricité. qui gère l'infrastructure du réseau, l'infrastructure physique. Mais non, ils vont avoir une ouverture de capital, mais c'est pour financer le développement, donc ça marchera pas. Bon, voilà, il faut que l'État trouve en plus 8 milliards, grosso modo, 4 milliards plus 3 milliards plus les bricoles à côté, ça coûterait à peu près 8 milliards d'euros à l'État, à nous. Nous qui ne sommes pas liés à EDF, qui ne consommons pas d'électricité à EDF, ben on va payer quand même EDF. Et puis pour terminer avec EDF, parce que EDF non seulement va coûter de l'argent, mais aime pas la liberté de la presse. Et oui, ça, EDF. Bon, on dit toujours, énergie nucléaire, société totalitaire. Et ben, on a un exemple encore récemment, puisque c'est le Journal de l'énergie. Alors, Journal de l'énergie, c'est un site internet d'information autour des énergies. Donc, ils ont publié, on en avait parlé d'ailleurs, il y a quelques semaines, des notes internes d'EDF qui mettent en lumière le problème sur les moteurs diesel de secours. Vous savez, si une centrale, ça a besoin d'électricité, et quand il y a un problème dans la centrale qu'elle s'arrête, il faut continuer à avoir de l'électricité pour faire tourner les pompes de refroidissement, sinon la centrale pète. Ce qui est passé à Fukushima, le tremblement de terre a cassé l'arrivée de la ligne à haute tension, et du coup la centrale avait plus d'électricité et ça a pété. Et le tsunami a empêché en plus les secours de venir tout de suite, donc ça a mis un effet qui se coule hein, sur cette belle centrale de Fukushima. En tout cas, là, les notes qu'avait récupérées le Journal de l'énergie montraient bien que les moteurs diesel des centrales de secours, on appelle ça des groupes électrogènes, étaient en très mauvais état, voire on était proche du délabrement pour certains. Donc EDF avait vraiment pas apprécié que ces documents internes soient révélés. Pourtant, c'était pas un mensonge, c'était un vrai truc, mais non, la transparence n'est pas appréciée. Donc, ils avaient cherché d'abord à minimiser ces révélations, puis quand ils ont vu que c'était pas possible, puisque les documents étaient clairs, étaient présents, ils ont commencé à menacer les journalistes, notamment de poursuites, parce qu'on sera en Amérique du Sud, ils leur auraient fait tirer une balle dans la tête, mais on n'est pas en Amérique du Sud. Donc, ils les ont menacés de poursuites si les documents n'étaient pas retirés du site, donc un petit chantage. L'argument invoqué, c'est quoi ? Je cite, la publication de ces notes sans autorisation porterait atteinte à la propriété intellectuelle d'EDF, c'est-à-dire aurait un aspect économique négatif sur l'entreprise, ce qui est un peu présent dans la loi sur le secret des affaires hein, qui a été votée récemment au niveau de l'Europe. Bon, mais ils ont essayé, pour l'instant ça n'a pas marché, et bah, quelque part c'est plutôt rassurant, mais ça nous rappelle un petit peu que ces multinationales, EDF c'est une multinationale, n'aiment pas la transparence, et la problématique des lanceurs d'alerte ressurgit, notamment après cette loi pourrie qui a été votée au niveau de l'Europe. Même si le gouvernement dit socialiste fait semblant de trouver un statut pour les lanceurs d'alerte, grosso modo, le risque reste énorme sur les gens qui donnent ces notes, par exemple, à un site internet. S'ils se font choper, en général, non seulement ils perdent leur boulot, mais ils risquent beaucoup, hein, ce qui a été le cas de pas mal de lanceurs d'alerte, et dont celui qui est aujourd'hui en justice au Luxembourg pour l'affaire LuxLeaks. Voilà, je vais m'arrêter là, moi, pour les informations.
On va juste vous dire que les biocarburants, c'est pas bio.
Oui,
voilà.
Non, mais
bon, on en reparlera une autre fois, parce que c'est un sujet qu'on aime bien, ça aussi.
Oui, mais redire quand même juste. C'est une grosse étude qui est sortie, vous pouvez aller voir. C'est une ONG européenne qui s'appelle Transport et Environnement. Ils ont publié une étude en début de semaine, le 25 avril, sur les biocarburants. Une grosse étude, et ça démontre que ça émet plus de CO2 que le diesel. Ben, parce que c'est transformé, etc. Les biocarburants actuels, ceux qui vont être mis en place jusqu'à 2020, c'est la première génération. Ils se sont fait attaquer, c'est là où c'est drôle, le lobby des biocarburants, parce qu'il y a déjà un lobby des biocarburants. Ils ont contesté plein de choses qui sont bien évidemment fausses. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas la panacée. C'est biocarburant et qu'il faut plutôt se poser la question des moyens de déplacement. Pourquoi les moyens de déplacement individuels sont aussi développés et pourquoi les moyens de déplacement collectifs qui permettent de faire d'énormes économies de carburant sont si peu développés et sont surtout en cours de non-développement, dirais-je, enfin de régression dans le monde moderne. Il nous reste 2 minutes. Moi, je n'ai pas prévu d'agenda, mais tu as.
Alors, écoute, moi, je vais terminer par autre chose. On vous avait parlé hein, de l'attaque du groupe Bolloré contre Bastamag. On vous avait dit qu'il y avait eu un procès, vous en avez parlé un petit peu. Et puis, c'est vrai que j'ai manqué de suivi, puisque j'ai oublié de vous dire que. Du côté du directeur de la publication des journalistes de Bastamag, ils ont été relaxés le 14 avril dernier par le tribunal de grande instance de Paris, qui a décidé que c'était d'un caractère d'intérêt général, leur travail, cet article sur lequel ils étaient attaqués. Je vous rappelle que c'était un papier sur le phénomène d'accaparement des terres, et c'est pour ça qu'ils avaient visé le groupe Bolloré. Le tribunal a aussi jugé qu'il y avait des impératifs de débat démocratique, donc d'où la relaxe. On a appris lundi que le groupe Bolloré faisait appel du jugement. Il continue. Bastamag nous dit sur le site internet aujourd'hui, convaincu de l'importance de cette question, donc de l'accaparement des terres, la rédaction de Bastamag poursuivra son travail d'information sur ces phénomènes d'accaparement de terres et sur la responsabilité des grands groupes français et internationaux dans ce processus. Diffuser ces informations, participer au nécessaire débat démocratique sur ces sujets, serait-il devenu impossible ? La décision du groupe Bolloré de faire appel de ce jugement pose des questions essentielles sur la liberté d'informer, en particulier sur les activités des multinationales. Est-il encore possible de parler de ces sujets sans risquer une longue procédure judiciaire ? Nous, on les soutient.
Voilà, il reste 15 secondes avant la petite cuillère pour vous dire que dimanche, c'est le 1er mai, non pas la fête du travail comme le disent les militants patronaux et d'extrême droite.
Et les médias.
Mais voilà, la fête des travailleurs, et cette fête des travailleurs, on la passe à manifester. Le départ est, comme d'habitude dans le 7e, je laisse vérifier exactement où, vers Debourg normalement. Et voilà, manif du 1er mai contre les patrons, contre la loi El Khomri, contre tout ce que vous voulez, parce qu'il y a tellement de choses. Vous avez le choix dans vos arguments pour dire que vous êtes contre quelque chose et pour plein d'autres belles choses. Bye bye.
Ciao.